Un marceau tout seul, c'est correct. Open mic, open mic. Un marceau bien accompagné, c'est tellement mieux.
C'est déjà mercredi, deuxième jour de travail de cette semaine de 4 jours.
Je suis tout mêlé.
Puis toi, tu me mêles beaucoup dans la vie. Vraiment. Oh. Tu m'aides beaucoup, mais tu me mêles beaucoup.
OK.
J'ai toujours besoin des auditeurs pour m'aider. Pour
t'aider
m'aider
à quoi?
À te comprendre.
OK.
Parce qu'on était en train de parler des gens qui puent de la gueule.
Oui. Ce qui est vraiment dérangeant.
Et moi, j'ai pas tendance à le dire à personne. C'est juste que je m'éloigne, tu sais. Puis moi-même, des fois...
Mais des fois, tu peux pas, Yann.
Tu sais, j'aimerais bien ça me brosser les dents sur l'heure du midi, mais je travaille. Fait que je déjeune le matin, puis après ça, je prends du café à côté jusqu'à 15h.
Mais il y a là le problème.
Puis après ça, ben à 15h, là, je vais manger. Puis après ça, quand j'arrive chez nous, je me brosse les dents.
Mais traîne un paquet de gomme.
Ouais, mais non, je peux pas. Je peux pas tout gérer ça. C'est trop de gestion.
C'est trop d'effort. Okay?
Et Audrey qui me dit, elle m'a pas dit que je peux de la gueule, mais elle me dit, tu sais, moi, mon truc, quand quelqu'un sent de la bouche, je lui dis, hey, excuse, t'as-tu une gomme?
Oui, mais là, attends, là.
Puis là, tu me dis, mais la personne, normalement, est supposée de comprendre que quand je dis « excuse, t'as-tu une gomme? », elle est supposée de comprendre que si je dis ça, c'est parce qu'elle a pu de la gueule. C'est pas clair, Audrey. Ce n'est pas clair.
Mais là, ça, c'est un truc que je t'ai donné parce que, pour moi, on est rendu assez proche pour que je puisse t'informer de ces choses-là.
Oui, mais si tu rajoutes « hey, t'as-tu une gomme? » Puis là, je te dis « non, Audrey, j'ai pas de gomme. » « Ah, tu pourrais aller t'en acheter. » Là, moi,
ah,
je vais
comprendre. Ah, ça, je trouve que c'est mean.
Je vais comprendre le message.
Non, c'est mean.
Mais pourquoi vous vous attendez
parce que moi,
à ce
j'ai
qu'on
de la gomme.
Lise fait... dans vos messages codés?
Là, je comprends ton point, mais là, ce qui s'est passé, c'est que je t'ai informé du truc que je prendrais pour te dire si jamais tu avais mauvaise haleine. Parce que moi, ça fait partie des choses, là. Puis je comprends que c'est gênant, c'est pas quelque chose que tu abordes avec n'importe qui, mais si je me sens assez à l'aise avec des gens, des collègues autour de moi, je préfère leur dire que tout le monde le sente, puis qu'on se dise tout comme moi, hein, Marceau, matin,
ah ouais.
C'est pas brosser les dents. Hein. Tu me suis? Fait que c'est juste une façon, puis c'est un truc que je donne, en fait. Faites-le avec les gens autour de vous. Moi, c'est un truc que j'ai avec mon chum, avec mes meilleurs chums de filles, mes meilleurs chums de gars. Si je te dis, hey Yann, t'as-tu de la gomme? C'est une façon subtile de dire « tu pues la gueule ».
Je suis le seul qui comprend rien si quelqu'un me dit juste ça comme ça.
Oui, mais c'est pas généralisé. Je t'informe que je te dirai jamais « Yann, tu sens vraiment mauvais ». Je trouve que c'est mean.
Mais tu dis « hey, t'as pas pris ta douche ce matin » ou « ça se peut que ton linge chante quelque chose, mais il me semble qu'il y a une petite odeur ». Ça se dit. Moi, j'aimerais mieux que tu me parles comme ça.
Ben oui. Regarde-moi dans les yeux et tu le dirais.
Moi, je le dirais pas.
C'est ça, je pense.
J'aimerais ça que tu me le dises à moi de cette façon-là, parce que je pense pas que si t'arrives, tu dis « hey, Yann, t'as-tu de la gomme? » »« Non, Audrey, j'ai pas de gomme. » »« OK, bye! » Je comprends absolument. C'est pas clair pour moi. Mais si tu me dis « Yann, il y a une petite odeur. T'es-tu entraîné ce matin? » Là, c'est clair que je vais comprendre, tu sais.
Hey, mais je trouve tellement que c'est méchant. C'est... Je trouve que ça manque de délicatesse. Mais quand t'avertis les gens autour de toi que ça va être le code... Tu sais, moi, je t'avertis, ça va être un code. Si un moment donné, on parle puis que l'odeur se rend à moi, je risque de te dire « Hey, Yann, petite gomme. »
Ah, ça, c'est bon. Yann, petite gomme.
Ça marche,
là, il y a un message.
C'est un... Okay.
Mais ben, c'est comme que si quelqu'un me demande de la monnaie, là, puis je dis non, j'ai pas de monnaie, puis il s'en va, je me dis, ben, tu sais,
pourquoi
il veut
de la monnaie?
C'est la même chose si tu me demandes une gomme, j'ai l'impression que tu veux de la gomme.
Je comprends.
Tu sais, mon réflexe pourrait être, tu veux-tu aller t'en chercher, mettons? T'en as-tu, tu pues-tu de la gueule, tu sais, miroir!
Ouais, c'est ça! Je te renvoie le bal! J'utilise ça avec mon chum des fois, puis ça le fâche, parce qu'il sait que c'est ça que je veux dire.
Il y a des demandes qui sont pas toujours claires de la part des personnes. C'est important d'être bon en communication quand vous voulez vraiment faire passer votre message.
Oui,
puis si vous n'êtes pas capable, ben, faites comme moi.
C'est parce que c'est une zone grise, Yannick.
Exemple, Audrey, un matin, t'as mis ta tuque, ça veut dire que t'es pas lavé la tête hier.
Je me suis lavé la tête hier, tu sauras.
Mais
j'ai un problème. J'ai un problème de sébum de cheveux. J'ai les cheveux gras rapidement, mes cheveux deviennent laids rapidement. Puis là, ce matin, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Ils nous disent qu'il faut moins se laver la tête pour qu'elle toffe plus longtemps. Fait que j'ai mis une tuque au lieu d'arriver ici avec une couette lichée grasse. Mais j'ai lavé mes cheveux hier.
Ben oui. Mais c'est clair. Quelqu'un qui me dit, moi, ma blonde est sans pitié avec moi. Quand elle me parle, elle me dit, t'as mangé quoi? Parce que tu pues de la bouche.
Ah, mais en couple, c'est
moi,
moins pire.
Mais moi, j'aime ce commentaire-là.
Mais en couple, c'est moins pire. Ça se dit mieux. Sauf que, tu sais, mettons, on a un collègue demain matin là, qui a mauvaise haleine. Là,
ou qui sent le swing, mettons.
Ou qui sent le swing. Ça se dit, tu peux pas arriver et dire à ce collègue-là, hey, tu pues. Ça se dit pas.
Vous le dites comment?
ben moi, je me trouve des trucs un peu plus subtils. Là, ouais. Ou des fois, je vais arriver dans une pièce, plus encore là, c'est parce que c'est une zone grise, parce que tu veux pas l'adresser directement, mais tu veux que quelqu'un s'en rende compte. Moi, quand je vais rentrer dans une pièce où ça pue, je vais te dire, hey, il me semble qu'il y a une drôle d'odeur. Puis là, je me dis, si t'es consensuel moindrement, tu vas faire un check-up à savoir si c'est toi et l'odeur.
Oui, parce que tu l'as fait un moment donné, puis j'ai dit, c'est la poubelle. Parce que les gens, la fin de semaine, exemple, CLO, elle mange des fruits. C'est normal qu'elle mette ça dans la poubelle. Mais le lundi soir, ben le lundi après-midi.
Oui, mais des fois, c'est pas
sûr,
la poubelle.
Que le fruit. Ah non.
Non, moi, si je dis ça pue, c'est que je sais. Je sais qu'il y a quelque chose ou qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose.
Ah ouais.
Ouais.
Parce que l'autre jour, c'était vraiment la poubelle. Il y avait des fruits, on a sorti la poubelle, puis ouais. c'était correct. On avait des dames l'autre côté qui mangeaient du poisson sur leur midi.
Ah, ça, c'est épouvantable.
Puis nous, on partage la même ventilation avec l'endroit où elle faisait chauffer son poisson.
C'est dégueulasse.
Ce qui faisait en sorte que quand les invités rentraient dans le studio, ça sentait le poisson, mais... Tu regardes ici, il n'y a pas de cuisine. Là.
Non, il n'y a pas de cuisine.
Il n'y a pas de poisson.
C'était dur pour nous, les femmes, parce qu'il fallait juste... non, je veux pas là!
Fait que les invités rentraient, je disais, c'est pas moi, c'est Audrey.
Oui, c'est ça, exact. Elle a quelques problèmes ce temps-ci, là. Ah, mais comment vous l'abordez, 88-971-1021?
Tu pas le dit. J'ai une question pour Audrey. Pourquoi ne pas le dire directement? Tu pues de la bouche. Après qu'il y ait un code ou non, le message est identique. Puis moi, je suis entièrement d'accord avec Tipol.
Mais c'est un manque de... Non, mais Tipol, t'as raison. Mais là, c'est une question de savoir-vivre. Là. C'est un manque de... Tu sais, quand on dit quelqu'un, t'as pas de tact, t'as pas de délicatesse. C'est une façon de dire les choses pour pas humilier quelqu'un. Moi, quelqu'un me dit demain matin, « Hey, tu pues. » Honnêtement, je suis pas bien, là. C'est juste une question d'être sweet un peu, là. Il y a une façon de dire les choses.
Il y en a qui sont pas capables de bien faire leur lavage.
Oui, ça, c'est un enjeu.
Puis les gars célibataires, je sais pas les filles comment ça fonctionne, mais moi, je me souviens que quand j'étais célibataire, j'ai toujours le temps fait ça. T'sais, moi, j'étais le pire des locataires. Là. Le soir, avant de me coucher, je partais la laveuse. Puis le lendemain, quand je me levais, je prenais le linge dans la veuve puis je mettais ça dans la sécheuse. Ça, c'était correct. Ça sentait pas le
l'humide.
Ouais, le petit canard à pète cassée.
Ouais.
Mais si tu l'oubliais, si, admettons, tu revenais le soir, tu prenais le linge qui avait commencé à sécher dans la veuve, tu le mettais dans la sécheuse, le soir, quand tu sortais ça de la sécheuse, c'était pas si pire, ça sentait encore le bounce. Mais à partir du moment où tu avais ça sur le dos puis tu avais chaud un peu, l'humidité qui sortait de là
c'est épouvantable.
Tu sentais le vieillard de 175 ans.
Oui, non, mais ça sent vraiment le fond de tiroir. Puis ça, souvent, les gens s'en rendent même pas compte. T'sais, ils s'habillent, puis c'est autour de toi que, mon Dieu, ça se sent. Je vais le dire comme ça. Fait que le lavage, là, si vous n'avez pas le temps de le faire, faites-le juste pas. Attendez d'avoir le temps. Et quand il est mouillé, tu le mets direct dans la sécheuse. Puis il faut un endroit aéré quand même pour le faire sécher. Parce que si c'est dégueulasse dans ta maison, puis c'est une petite pièce fermée, ça va finir quand même par sentir l'humidité, là. Puis il y a des gens qui se rendent pas compte de ça.
Ouais. Au
c'est
Mexique,
dégueulasse.
Ça fait ça. Au Mexique, quand tu vas faire sécher quelque chose à l'extérieur.
Ça pue, là.
C'est à la galerie, là. Ça sèche pas. Là. C'est tellement humide que ça sèche pas. Puis après, si tu le remets, puis ça commence à sentir.
Non, c'est
après ça quelques jours. Mike, il dit salut, il y a quelques années, je travaillais sur la route. J'ai dû former quelqu'un qui avait une odeur corporelle assez intense. Donc, il se schlinguait en bon français. À un moment donné, j'ai baissé les fenêtres du véhicule tellement ça sentait fort.
Oui, puis ça, c'est dur, là. Ça, tu vois, c'est l'étape de trop pour moi. Quelqu'un qui a mauvaise haleine, je trouve que c'est facile à dire parce que tu peux l'excuser sur ce que tu as mangé ou ce que tu as bu. C'est comme facile à régler, tu sais ce que je veux dire? Tandis que quelqu'un qui sent corporellement mauvais, je suis un peu plus gêné.
Il s'en rend peut-être juste pas compte, là. Son nez s'est habitué. Moi, j'adore les femmes castrantes, hein. J'aime les femmes qui sont directes, puis parfois, ils parlent tellement direct qu'ils castrent tout le monde autour, incluant les gars, puis les madames ou les monsieur madame. Simon qui dit, ma blonde, elle me dit tout le temps, coudon, t'as-tu mangé d'un vidange?
Oh!
Ouais.
C'est rude.
C'est parfait, moi.
Ben c'est rude, mais en même temps, il y a une image. Je trouve qu'il y a quand même un brin de... C'est bien dit, là. C'est quand même bien dit. Il y a des gens qui disent, moi, j'en ai pas de tact, je le dis directement. Ouais, je sais pas, c'est peut-être parce que moi, je sais que je recevrais drôlement ce commentaire-là. Je préférerais qu'on me le dise de façon subtile, sinon. Tu sais, ouais, y a peut-être ça aussi. Pas de public. Tu sais, je te dirais jamais, Yann, tu serais vraiment mauvais pendant que tout le monde est en studio en train de changer de place puis que tout le monde est conscient de ce qui se passe. T'attends de le dire t'attends de le dire directement. Yann, tu me dirais ça.
Moi, je suis capable de prendre ce genre de commentaire-là parce que je le sais que je pue pas tout le temps. Fait que si un jour, je pue, mettons que j'ai été m'entraîner au tonic puis j'ai pas eu le temps de prendre ma douche, puis à midi, tu rentres dans le studio puis tu dis « Voyons, Yann, il me semble que tu sens le petit canard à pâte cassée. Oui. » Et je vais te dire « Je suis vraiment désolé, mais je t'en tiendrai pas rigueur. » ça va être bien correct. Je veux dire, ça va me donner en plus l'opportunité de m'excuser là, parce que je puce.
Ouais.
Dites la vérité.
Denis a déjà enlevé ses souliers en studio où il y avait des Crocs. Puis c'est Véro qui me l'a conté parce que j'étais absente cette journée-là. Puis Dieu merci, c'est jamais arrivé. Puis Denis a une peur de sentir mauvais, mais ça sentait le petit pied cassé, il paraît, en studio. Puis l'odeur de pied renfermé, y a-tu quoi de pire que ça, sérieusement?
Ouais.
C'est dégueulasse.
Nous autres, on était au centre-ville de Québec à l'école. Puis bien souvent, puis je sais pas si c'était une association avec l'Université Laval. Mais bien souvent, c'était une sortie éducative. À chaque année, on allait chez le dentiste, au secondaire de mémoire. Hein? Je pense que c'est secondaire.
Tout le monde se faisait laver les dents?
Ben, à Cardinal Leroy, je ne sais pas si c'était tous les groupes. Là, mais moi, je me souviens qu'on avait été testés à l'Université Laval là, avec des dentistes qui allaient faire ça de leur vie. Puis, ils nous nettoyaient les dents, puis ils nous réparaient les cheveux. Il me semble de mémoire, ils regardaient pas, ils faisaient pas les caries.
Ah, mais c'est beau,
ils faisaient un
exemple.
Genre de nettoyage, puis ils regardaient les dents et tout ça. Puis je me souviens qu'il y avait un gars de notre groupe, l'hygiéniste ou le dentiste, là, je ne me rappelle pas dans quoi il étudiait, a dit « Là, tu vas aller te brosser les dents, puis après ça, on va faire le nettoyage.
Oh. »
Hein? Il y en avait épais, là.
Mais il y en a pour qui ça n'a pas été montré.
Ouais. Ça, c'est tough. Triste. Les petits gars, c'est tough.
C'est surtout quand t'es jeune, t'as pas mauvaise haleine. Ça, c'est autour de comme 12-13 ans que ça commence à se renforcer. Là,
mais même là, t'essaies de leur dire, c'est trois fois par jour la fin de semaine, là, des fois.
Ils n'ont
rien
à foutre, hein?
Je pognais pour en prendre un, la prise en quatre avec un bras en arrière de l'épaule, puis là, je rentre la brosse à dents dans la bouche pour être sûr et certain. Puis là, il rit, puis il me dit, lâche-moi, je vais le faire. Mais c'est tough. Les petites filles, c'est plus facile. Moi, j'ai connu les deux. Moi, j'ai deux gars, puis il y a deux préfabs à la maison. Super autonomes, les petites filles.
Mais on a tous nos moments jeunes où c'est une perte de temps l'hygiène. On a tous nos moments quand on est, c'est ça, le 9, 10, 11, 12, où tu préfères jouer, voir tes chums que d'aller prendre ta douche. Mm-hmm. Puis t'as pas l'impression que tu vas sentir mauvais. T'sais, moi, je me souviens, jeune, là, le moment où il a fallu que je commence à mettre du déo, là, et on dirait que dans ma tête, ça pouvait remplacer une douche.
Puis tu sais, moi, j'ai deux clowns à la maison. Là,
ouais.
Puis ils retiennent de leur mère. Et
oui.
J'ai passé 20 minutes à m'ostiner avec mon gars parce que je voulais qu'il se brosse les dents. Puis là, il me disait, je suis capable de le faire avec ma gomme. Fait qu'il avait sa brosse à dents, il avait son dentifrice, puis il voulait garder sa gomme dans la bouche.
Voyons donc.
Là, j'étais là, tu peux pas faire ça.
Non.
Mais lui, il était persuadé qu'il pouvait le faire. Puis tu sais quoi? J'étais tellement tanné de m'ostiner avec que je l'ai laissé faire.
Tu as dit, arrange-toi tout seul.
Arrange-toi tout seul.
Dans la catégorie des gens qui sentent mauvais, les gens qui mangent de l'ail à fond, nous dit Julie. Les pores de peau suintent la puanteur. Ma collègue de bureau pue comme ça une fois de temps en temps. L'odeur dans le bureau est tellement dégueu, ça donne mal à la tête. Il y a quelqu'un qui dit... Bon, former quelqu'un qui sent mauvais, ça, on l'a eu plusieurs fois. Il y a des gens qui nous disent qu'ils ont déjà renvoyé des stagiaires prendre leur douche à la maison parce que l'odeur était vraiment forte et qu'il n'était pas question. Hey, ça prend... Hey, c'est une job sale, là. Quand t'es patron, puis il faut que tu sois celui qui rencontre quelqu'un pour dire « Écoute, comment je te dirais ça, là? » Il y a un léger problème.
Je l'ai déjà fait, puis ça s'était bien passé. C'était un Français de France qui, lui, avait pas pris pour habitude de mettre du déo.
Ah ouais, hein?
J'avais dit, ici, faut mettre du déo. Puis il avait dit, moi, je n'en mets jamais, ça sent pas. Lui, il se sentait pas.
Mais là, mais ça, c'est normal.
Puis il en jasait avec un médecin en entrevue. J'avais parlé de ce cas-là. Puis ce qu'il m'avait expliqué, c'est que sur certains continents, là, ça n'existe tout simplement pas, le déodorisant.
Mais c'est comme nous autres. Nous autres, on ne sent plus le parfum. Là.
Exact. On en a déjà parlé, d'ailleurs. Ça m'a envoyé un signal. Ce qui fait en sorte que dans un pays, là, ils n'en ont pas de déo. Ils sentent toutes la même affaire. Fait que le cerveau fait abstraction de cette odeur-là, ce qui fait en sorte que tu sens normal.
Ouais.
Puis quand il arrive ici, il trouve qu'on sent trop le parfum.
Mais puis il a raison.
Puis nous autres, on trouve que l'été, quand il transpire, ça sent le caldaouf.
Il y a ça aussi. Mais tu sais, ça, c'est comme les gens. Ça, là, c'est tout le monde. Hein. Il y a des gens qui s'entraînent, là. J'ai déjà vu ça souvent au gym, qui remettent leur linge de gym dans leur sac et c'est toujours le même. Ça, c'est non, hein? Tu laves ton linge quand tu t'entraînes.
Ouais, ça dépend. Moi, je transpire pas vraiment, là, ce qui fait en sorte que, t'sais, c'est jamais le même T-shirt, c'est jamais les mêmes culottes, mais mon gilet capuchon, je le prends, là. Je transpire pas.
Mais là, si au moins t'as quelque chose en dessous, c'est correct. Là.
Ouais, c'est ça.
Moi, je te parle de la personne qui va porter le même linge collé sur le corps. Là. Il y a quelqu'un qui nous dit « J'ai aucun sens de l'odorat malgré le fait que je fais tout pour avoir une bonne odeur. Si je pue, je serais pas fâchée que quelqu'un me le dise. » Bon, effectivement, dans ce cas-là, moi aussi, j'apprécierais. Mais moi, je le demande des fois. Tu fais-tu ça? Moi, des fois, quand je suis pas sûre que j'ai l'impression de sentir l'humidité, je le nomme tout de suite. On dirait que je veux pas que quelqu'un me le dise. Mm. Comment j'ai l'impression de sentir bizarre aujourd'hui?
Curieusement, tu me l'as jamais demandé.
Je sens très bon. Je viens de me sniffer.
Hey, c'est rare qu'on parle de politique dans l'open mic, mais ça me tente de vous en parler un peu. Je ne sais pas si vous en avez parlé hier dans le retour, mais c'est une candidate du PPC. PPC, c'est le Parti populaire du Canada. C'est Maxime Bernier qui est derrière ce parti-là. Je trouve ça difficile de parler de Maxime Bernier parce que le politicien, j'ai eu bien de la misère avec, mais l'homme, c'est quelqu'un que j'ai aimé beaucoup personnellement. Quelqu'un d'hyper gentil. Quand il te fait une promesse, il la respecte. Il a des bonnes valeurs fondamentales. Puis je connais un peu sa famille en Beauce aussi, ce qui fait en sorte que quand je critique Maxime Bernier, je me sens comme un peu traître, mais en même temps, il faut que je sois honnête. Puis le Parti populaire du Canada, bien qu'il y ait des gens qui vont me dire « Non, c'est pas ça pantoute. Mm-hmm. » Moi, je pense que c'est un parti pour permettre à Maxime Bernier de rester en politique, pour y donner un salaire. Mais ce parti-là ne sera probablement jamais au pouvoir.
Mais de moins en moins, en tout cas. Là.
Il ramasse des fonds à la grandeur du Canada pour pouvoir donner un salaire au chef. Mais pour le reste, les candidats très sérieux dans ce parti-là sont très, très rares. Puis il n'y a pas une certaine rigueur, tu sais, dans la recherche de candidats. Mm-hmm. C'est-à-dire que si toi, tu veux être candidate pour le Parti populaire du Canada, ben, tu vas envoyer ton CV puis ça se peut que tu sois pris dans n'importe quelle circonscription parce qu'il n'y a pas de... il n'y en a pas d'autres.
Et là, on a une candidate d'ailleurs.
Puis
hein,
c'est arrivé ici à Alexandrine La Tendresse, c'est tout ça, pour le NPD. Il y a tout ça plusieurs années. Elle étudie en littérature russe.
Ouais.
Puis on l'appelait Tsarine La Tendresse, là.
Oui, c'est ça, Alexandrine Latendresse.
Alexandrine Latendresse. Bon, elle avait donné son CV pour être bénévole pour le NPD. Ils ont dit, dans notre... puis je ne compare pas le Parti populaire du Canada au NPD, là, quoique il y a certaines ressemblances dans le sérieux de la chose. Mais elle avait donné son nom comme bénévole. Puis finalement, il l'avait pris comme candidate. Puis il y avait eu la vague Jack Layton à l'époque. Ce qui fait en sorte qu'elle avait été élue alors qu'elle voulait juste être bénévole.
C'est capoté pareil.
Dans son cas, elle, c'était quelqu'un qui, tu sais, qui avait des bonnes études puis qui a quand même fait un 4 ans, qui avait du bon sens, même si on n'a pas entendu parler de tant que ça. Puis aujourd'hui, ben, c'est elle-même qui s'était retirée de la politique. Mmh. Puis aujourd'hui, elle travaille dans son domaine et tout ça, c'est correct. Mais dans le cas du Parti populaire du Canada, ils ont pris une candidate qui s'appelle Caroline Mailloux.
Oui.
Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait trop de recherches parce que quand on tape Caroline Mailloux sur Google, on tombe sur des trucs d'extraterrestres.
Oui, elle vient d'ailleurs. Ouais.
Elle vient d'ailleurs, effectivement. Oui. Elle aurait été dans des vaisseaux spatials et tout ça. Puis ça a pété hier parce qu'il y a un journaliste qui a fait des recherches sur cette candidate-là. Et lors d'une conférence, puis retiens Richard Glenn parce que je vais t'en reparler, là, mais lors d'une conférence, elle a commencé sa conférence en saluant des gens qui n'existent pas.
Oui.
J'aimerais remercier beaucoup, avec tout mon amour, les gens de l'Alliance qui sont ici, les gens de la Confédération galactique, les êtres bleus, et ainsi que Ange Bleu, une de mes guides de lumière. Alors moi, ils sont déjà venus me chercher, puis celle qui est venue me chercher ressemblait beaucoup à ça. Je visite les vaisseaux. Alors, moi, ça a été des expériences bien agréables.
Donc, le visiter les extraterrestres,
oui,
les anges
les
bleus,
vaisseaux.
Les trucs intra-galactiques et tout ça. Puis, tu sais, j'essaie de c'est une fille avec une tête sur ses épaules. Là. Je sais pas si tu as regardé son CV, là. Doctorante en management et en technologie. Mais elle fait
mais
partie de la même gang que Richard Glenn.
Oui.
Mais moi, des croyances, là, tu sais quoi? Si c'est des croyances, Audrey, là, j'ai aucun problème avec ça. M'a respecté tes croyances. Tu crois aux extraterrestres? M'a les respecté. Mais à partir du moment où tu salues des gens qui n'existent pas dans la salle, à partir du moment où tu dis que toi, tu voyageais dans l'espace puis que tu rencontrais des personnes bleues, exemple, là, je vais peut-être t'enlever un petit peu de crédibilité.
Je suis pas capable de rester sérieuse.
puis elle, ce qu'elle dit, c'est « Écoutez, il n'y avait pas de candidat dans cette circonscription-là. Moi, je voulais juste aider. Puis là, ça tombe dessus. »
Oh mon Dieu! Mais c'est bon, ce show-là. Là. Puis quand tu regardes les différentes vidéos qui ont été retrouvées sur YouTube, dans des entrevues, tu sais, t'en as qui sont aux alentours de 2020. Puis je me suis dit au départ, bon, peut-être qu'elle a eu une absence de quelques années. Tu sais, la pandémie, ça a été difficile sur le mental de certains. Puis j'essaie de rester vraiment sans jugement. Tu sais, à me dire, bon, peut-être que ça a été difficile. Puis peut-être qu'elle est revenue sur Terre, tu sais, peut-être que, sans faire de mauvais jeu de mots, peut-être qu'elle est revenue à nous. Puis là, non, les dernières entrevues datent de 2023, 2024, puis tu te dis, OK, non, elle est vraiment... elle est ailleurs,
tu sais, moi, dis-moi avec qui tu te tiens, là, moi, être capable de savoir dans quelle gang que t'es. Puis là, en regardant un peu d'où venait cette jeune femme-là, je regarde, je vois le nom de Richard Glenn.
Ouais.
Est-ce que ça te dit quelque chose?
Ouais, c'est un ésotériste. Là.
Peut-être un peu trop jeune pour l'avoir vu directement à la télé, mais lui, il faisait une émission dans le temps. Je pense que c'était la télévision communautaire. Ça s'appelait « Ésotérisme expérimental avec Richard Glenn ». Il parlait comme ça dans un français un peu cassé, là, très montréalais, très hautain. Puis il parlait des extraterrestres avec une grande ouverture.
Ouais.
Puis à un moment donné, ben dans les dernières années, il y a des petits gars qui sont devenus grands qui ont dit « Ouais, mais ce monsieur-là, il me taponnait quand j'étais jeune. » Donc, il y a eu deux premières plaintes qui finalement ont tombé. Là, c'était des plaintes d'agression sexuelle. Mais il y en a une où il a été déclaré coupable. Entre 1981 puis 1984, celle-ci a été déclarée coupable. Est-ce que tu te tiendrais avec un agresseur sexuel qui a abusé d'un enfant?
Ben non.
Malgré tout ça, là, OK? La femme se tient avec un gars qui est un agresseur sexuel, un agresseur d'enfants reconnu, Richard Glenn. Vous pouvez vérifier, il y a des articles à cet effet. Puis malgré le fait qu'elle dit, elle salue des gens dans la salle, des êtres bleus, des membres de l'unité intergalactique et tout ça, des anges gardiens, malgré ça, sachant ça, ben le Parti populaire du Canada endosse encore cette candidate-là dans sa circonscription.
Ouais.
Comment faire pour perdre ta crédibilité, là, c'est de garder ce type de candidat-là.
Ah, puis le pire, c'est que ça a été défendu. Là, il y a plusieurs articles à cet effet-là dans les dernières 24 heures où carrément on dit « Ben oui, on l'appuie parce que ça veut pas dire qu'elle va mal s'occuper du monde. » C'est ses idéaux, c'est ses façons de penser. Ça ne nous regarde pas, c'est personnel à elle. Nous, c'est le côté professionnel qui nous intéresse. Sauf que, tu sais, mine de rien, ça se mélange tout ça. Là.
Oui. Mais je répète, là, dis-moi avec qui tu te tiens, m'a dire quitter réellement. Là. Puis dans son cas, elle, moi, si j'avais été le chef de son parti, ce serait terminé. Là.
J'aimerais juste qu'on reprenne un moment parce que j'ai pas encore assimilé.
Tu veux que je te fasse réécouter son extrait?
Ben, j'aimerais vraiment ça et entendre ses salutations parce que tu sens un grand sérieux dans sa voix. Puis je pense que ça peut être pertinent de. D'être toutes sur le même pied, mettons, là, quand on entend ça, là, de tout à la même place.
Mon amour, les gens. J'aimerais remercier beaucoup, avec tout mon amour, les gens de l'Alliance qui sont ici, les gens de la Confédération Galactique, les êtres bleus, et ainsi que Ange Bleu, une de mes guides de lumière. Alors, moi, ils sont déjà venus me chercher, puis celle qui est venue me chercher ressemblait beaucoup à ça. Je visite les vaisseaux. Alors, moi, ça a été des expériences bien agréables.
Puis la photo qu'elle a mis, c'est un manga chinois pour déterminer qui était vraiment la personne qui l'a amenée dans l'espace.
C'est fou parce que, tu sais, c'est facile là, de jouer au gérant d'estrade puis de juste rire là, de ces gens-là. Mais honnêtement, il y a une petite partie de moi qui trouve ça triste en même temps parce que j'aimerais comprendre. Ça sort d'où? Est-ce qu'elle a déjà été aidée? Non, mais pour vrai, moi, je la recevrais, là. Qu'elle m'explique ses affaires, là, tu comprends? Mais en même temps, elle ne veut pas parler. Ils ont essayé de... Toutes les médias TVA ont essayé de faire une entrevue avec elle dans les dernières heures. Elle dit qu'elle ne parle pas avec les gens qui ne sont pas ouverts. Faut qu'on comprenne. T'sais. Faut qu'on ait une ouverture d'esprit par rapport à ça. Puis je saisis. C'est juste que c'est... Crédibilité, tu l'as dit. Crédibilité. C'est dur quand on parle de politique après puis de potentiel, entre giga guillemets, là, gouvernement, de penser que des gens comme ça pourraient... s'occuper de nous autres.
Elle ne sera pas élue, là, mais c'est, non, juste, c'est juste cocasse pendant cette campagne-là. Hey, ça me tente de te faire écouter quelque chose? Ça te dit-tu quelque chose, ça?
Est-ce que c'est Bryan Adams?
Bryan Adams.
Hey, je suis tellement contente.
Ça s'en vient à Québec, ça?
Oui, il va être de passage à Montréal et à Québec en octobre prochain, 8 et 9 octobre, au Centre Bell et Centre Vidéotron. Je l'ai vu l'année passée au Festival du côté de Lévis. Peu importe ce que tu penses de Bryan Adams dans la vie. Là.
Ah, il y a moyen de passer une belle soirée. Là.
Le gars était cœurant sur le stage. Donne un méchant show. On connaît ses tunes, là, la tournée en passant, Roll with the Punches, c'est comme ça que ça s'appelle. Et c'est les Sheepdogs qui vont faire la première partie des dates canadiennes. Ça va être écœurant. C'est 41 concerts en Amérique du Nord du 11 septembre au 26 novembre. Fait que deux dates très, très accessibles pour nous autres. Si on les connaît toutes, là, Summer of 69, probablement une de ses plus populaires. Everything I do it for you. Je me souviens, c'était la tune de mes parents, ça. Heaven, ça en est une autre qui est super populaire. Cuts Like a Knife. Fait que, non, on va avoir beaucoup de plaisir à le voir au Centre Vidéotron. Puis il n'y a pas de misère à remplir les salles Bryan Adams, au contraire. Fait que, écoute, le dernier passage au Centre Vidéotron, ça remonte à septembre 2022. Il était temps qu'il revienne nous voir. J'avais été comblée l'été passé.
J'avais été comblée.
Ben oui, parce qu'au festival juste avant Bryan Adams, c'était Jonathan Roy.
Ah ben.
J'avais passé une très belle soirée. Très belle soirée.
Tout le monde sait ça. Ouais. Au hockey, quand on est jeune, tout le monde se suce. Hein?
Yannick.
Puis dans un autre podcast, la dernière semaine, il a dit « Hey, j'ai jamais dit ça.
» Il nie. Là, les extraits se promènent. Jonathan Roy, ouais, il a pas la langue dans sa poche, je te dirais, dans son podcast.
J'étais avec deux danseuses. Il y en a une qui m'a implanté un doigt dans le puteux, puis je me suis ramassé à l'hôpital avec la bactérie mangeuse de chair.
Ouais. Il n'y a pas que ça, il y a la brosse à dents aussi.
C'est vrai, il a découvert la prostate avec la brosse à dents.
Exactement. C'est très intéressant ce que vous retrouvez quand vous tapez Jonathan Roy
tout
sur le Google.
Touchez pas à la brosse à dents du roi Patrick. C'est mon roi à moi. Okay? Caravane, je cherche le trouble. Ça s'en vient dans les prochaines secondes. Sinon, notre invité du jour, ça va être SOS Nancy. Nancy Doyon qui va être avec nous autres. Elle va nous parler de troubles d'opposition.
Ah, j'ai assez hâte.
Pourquoi?
Mais moi, j'ai des gens dans mon entourage, très près, physiquement,
oui,
en ce moment, qui ont quelques troubles de l'opposition.
C'est l'opposition systémique ou l'opposition réfléchie?
Les deux, je pense. Là, les deux, oui. Mais on va parler plus précisément pour les parents d'enfants de 6 à 18 ans, mettons, parce que les troubles de l'opposition sont comme multipliés à l'adolescence. Là. L'affaire, c'est ça, c'est comme Tana, parce qu'après 18 ans, Yannick, ça reste stocké pour certaines personnes.
Mm-hmm. Ah oui?
Ouais. Fait que ça va être intéressant de parler de ça. Si vous avez des questions pour Nancy, 88-971-1021, le trouble de l'opposition.
Je serais curieux de savoir l'avis des auditeurs par texto, 88-971-1021. Qui a le plus grand trouble de l'opposition à Boulevard? Mike Chéreau, non, le chanteur. Caravane!
Oh là là!
Ça en vient avec Je cherche le trouble, puis on se retrouve après. Oh boy, quel sujet on va jaser aujourd'hui. Je sais pas si ça va être pour les jeunes ou les moins jeunes ou les plus vieux ou les adolescents, mais chose sûre, c'est qu'on va parler d'opposition.
Ouais.
Audrey, ouais.
D'opposition.
Puis je veux juste te dire, parce que j'ai fait un appel à tout le monde tantôt, 418-971-1021, j'ai posé la question, qui était la personne la plus dans l'opposition à Boulevard?
Ton nom est sorti beaucoup.
Et ton nom est sorti plus souvent que le mien. Il y a Max Larouche aussi qui est sorti.
Ce que tu veux que je dise, c'est non, j'imagine. C'est pas vrai. Fait que je vais te dire, t'as sûrement raison.
Ah ouais. Max Larouche est sorti aussi. Fait qu'on est trois, là.
Mais le pire, c'est. Non, mais il y a une grande ironie,
trois,
là.
Ouais.
J'ai tout sauf un trouble de l'opposition, là.
OK. Ben, tu viens de le faire, là.
Voyons,
les auditeurs.
Tu dis de la mentale, t'as
les auditeurs t'accusent.
Oui, assurément.
D'être très opposant.
Ouais, t'as sûrement raison. T'as sûrement raison.
On a le plaisir d'accueillir SOS Nancy. On va parler du trouble de l'opposition. SOS Nancy, ben, c'est Nancy Doyon de son vrai nom, éducatrice spécialisée. Toujours un plaisir de te recevoir. Puis d'ailleurs, quand on t'a teasé tantôt, t'étais pas encore arrivé en studio. Des auditeurs qui nous ont écrit, puis je lis le message. Salut, j'ai écouté la formation en ligne de Nancy sur le cerveau et la gestion des émotions chez l'enfant. Ça a changé ma vie complètement. J'ai appris comment le cerveau de ma fille fonctionne à 2 ans et demi. Depuis, je suis beaucoup plus douce dans mes interventions avec elle et elle fait maintenant ses nuits depuis ce temps-là. Donc, je vais écouter l'entrevue avec SOS Nancy avec une grande attention.
Wow.
Merci, Nancy. C'est cool, ça. Sur Twitch aussi, on a des beaux commentaires.
On a des beaux commentaires aussi. Il y a Pat qui nous a dit que. Elle a dit j'ai lu son livre, Nancy Doyon, Parents responsabilisants. C'est tellement bon, ça m'a beaucoup aidé. Fait que non, les gens. C'est une partie de la paye, ça, j'imagine.
Tellement.
J'aimerais ça un jour que tu fasses un livre Parents pour les nuls.
Ah, mon Dieu, je l'ai. Ben, ah, mais fait, tellement.
Il n'y a pas de mode d'emploi pour être parent.
Mais en fait, tous mes livres sont parents pour les nuls, dans le fond. T'sais, je veux dire, tous les livres amènent des angles de réflexion différents pour les parents.
Ouais.
Mais tu sais, en même temps, il n'en existe pas de mode d'emploi. Ça, ça serait le fun. Je ferais fortune s'il existait un mode d'emploi qui s'applique à tous les enfants puis à toutes les familles. Ça n'existe pas. Fait qu'il faut vraiment. Je trouve que la parentalité, c'est un des enjeux les plus difficiles, un des défis les plus difficiles qu'on relève. Parce que à tous les jours, il faut se poser des questions. Tu sais, élever un enfant, c'est pas comme dresser un chien, là. T'sais, dresser un chien, t'as une méthode, puis une fois que c'est fait, puis il est réglé. Mm. Tu sais, assis, couche debout, tu sais, donne la patte, puis c'est réglé. Un enfant, c'est pas ça. Ça évolue constamment. Puis, tu sais, on se parle aujourd'hui d'opposition, puis...
Ouais.
Moi, premièrement, il faut faire la différence entre opposition, hein, avoir de la graine de tête de mule, là, mm-hmm. vous deux, là. Puis, et probablement tes enfants, Yannick.
Et assurément.
Ouais, ils retiennent de leur mère.
Mais oui.
Ouais, ouais, c'est ça, je connais aussi la mère, puis ouais, pas tant. Mais c'est ça, tu sais, avoir de l'opposition. Tous les enfants, ben pas tous les enfants, beaucoup d'enfants qui ont un tempérament plus fort vont s'opposer
ouais.
à un moment donné.
Les
ou pré-ados. Un autre.
Les pré-ados.
Moi, j'en ai un de 12 ans. Les tout-petits aussi, 2 ans, 4 ans. Après ça, oui, pré-ado, l'adolescence.
Moi, j'en ai un de 12 ans. Des fois, je dis juste oui, il me dit non.
Oui, c'est ça. Juste pour le fun.
Tester les limites, c'est un peu
ouais,
seul,
c'est
là,
ça.
Ouais.
Puis ça fait partie du développement normal. Puis bon, ben les enfants qui ont un tempérament fort vont s'opposer un petit peu plus que les autres. Fait que généralement, mes livres puis mes outils standards, ça marche, ça fait la job, on ajuste. Puis là, mais il faut tout le temps se poser des questions. Puis bon, qu'est-ce qui marche bien avec lui? Qu'est-ce qui marche bien, moins bien avec
mais
lui?
Mais par où on commence, Nancy? Mettons, tu sais, avant d'embarquer vraiment dans le trouble de l'opposition, là, mettons, là, moi, je deviens une nouvelle maman demain matin. Là, ouais. Et tu sais, t'en fournis du stock, là. Fait que par où je commence? Je me suis toujours posé la question, tu sais, les gens qui fournissent de l'aide comme ça, puis qui sont présents, on dirait qu'à un moment donné, t'évolues pas, tu sais, dans le sens qu'on n'évolue pas en même temps, là. Fait qu'il y a un certain point où je sais pas par où commencer.
Mais il y a plusieurs bases, là, tu sais. Moi, je me souviens à l'Hôtel Dieu de Lévis, il y avait une dame, je pense, qui a fait carrière là, c'est que quand tu annonçais que tu allais avoir un enfant puis que tu allais accoucher là, ben il y avait des cours qui t'étaient donnés.
Les cours prénataux.
Des cours prénataux, puis cette dame-là était super. Puis, tu sais, à un moment donné, avec mon horaire le soir, je n'étais pas capable d'y aller. Fait que c'était la mère de mes enfants qui y allait. Puis ça l'a grandement aidé, puis grandement apaisé. Mais je sais aussi que c'est une grande lectrice de SOS Nancy. Là. Mm. Puis, à un moment donné, on avait fait affaire avec toi aussi
ben
parce qu'on voulait savoir comment faire telle ou telle affaire avec nos enfants. Finalement, ça n'a pas marché. On les a attachés dans le sous-sol.
Toujours plus simple. Hein?
mais non, ça a fonctionné. Puis, mais c'est ça. Il y a plusieurs bases.
Ben, en fait, admettons quelqu'un qui aurait un nouvel enfant, serait un nouveau parent. Ben, tu sais, moi, si elle me lire, je lui suggérerais mes deux livres, Parents gros bon sens, Parents responsabilisants, qui sont des super belles bases pour dire ben, comment est-ce que j'apprends à mon enfant à mieux collaborer, puis comment j'apprends à décoder ce qu'il y a derrière les comportements dérangeants qui sont inévitables. Les gens qui sont moins lecteurs, ben, tu sais, j'ai des formations aussi, là, s'ils vont sur mon site de l'Institut de coaching familial, j'ai un paquet de formations web sur le dodo, sur la discipline positive, sur la responsabilisation, justement. Tu sais, fait que cerveau, tu sais, j'en ai même des gratuits, là, justement, cerveau, gestion des émotions. Fait que tu sais, fait que moi, je suggère aux parents, à tous les parents, de se former continuellement.
Ça commence à quel âge, hein?
Ça commence à naissance.
L'éducation. Oh, ouais!
Ça commence à naissance.
Tu sais, des fois, on a l'impression que quand ils bougent pas, ils font juste boire du lait, faire dans leur couche puis dormir. Que
ben, ça commence à la naissance par le lien d'attachement que je crée avec mon bébé. Ma capacité de répondre avec douceur et affection à ses besoins et à ses pleurs. Comment est-ce que je regarde mon bébé? Comment est-ce que, un petit peu en vieillissant, ça se peut que je commence à lui faire vivre certains petits délais quand il me demande quelque chose, tout en le rassurant avec bienveillance. Après ça, ben, quand il est rendu à 10 mois puis qu'il m'arrache les cheveux, comment est-ce que je commence à lui faire « non, mon cœur », doucement. Et bon, tu sais, c'est un processus continue, mais ça commence à la naissance avec l'accueil que j'aurai, comment je serai présente auprès de cet enfant-là. Puis ce que je vais faire dans la première année peut avoir un impact sur tout son développement. Et là, tu sais, justement, aujourd'hui, on veut se parler d'opposition puis de troubles d'opposition, puis ben, je suis obligée de dire que malheureusement, ben, un des enjeux qu'il peut y avoir derrière les troubles de l'opposition, c'est les troubles de l'attachement. Donc, l'attachement est primordial, puis ça, ça joue beaucoup dans le 0-2 ans, l'attachement sécurisant que je vais installer avec mon enfant. Fait que les premiers mois de vie sont importants. Puis après ça, ben, quand ils commencent à pas nous écouter, là, tu sais, quand ils ont un an, là, puis qu'on leur dit de pas aller dans la plante, puis qu'ils vont pareil en rigolant.
En rigolant, oui.
Ben là, tu sais, comment je vais intervenir avec fermeté et bienveillance là, parce que c'est les premiers signes d'opposition. Ben, comment est-ce que je vais intervenir là avec fermeté et bienveillance sans être trop réactif, mais sans non plus être la maman de Caillou qui fait « Non, mon cœur, oh, mon petit coquin! Oh, non! » Au lieu de...
Comment celle que... qui rit, là, puis qui oui, réagit pas tant, finalement. Là.
après ça, ben, quand ils ont 3 ans, puis que là, ils font exactement l'inverse, puis qu'ils montent sur les tables, puis qu'ils montent sur les chaises, puis que comment est-ce que je suis capable de faire vivre des inconforts, des frustrations à mon enfant en lui mettant des interdits clairs, mais sans être dans la surréactivité. Mm. Puis là, ben tu sais, on se le cachera pas, il y a des enfants plus difficiles à éduquer que d'autres. Tu sais, ils n'ont pas tous un petit tempérament de Bouddha, là. Fait que tu sais, il y a des enfants qui s'élèvent quasiment tout seuls. Puis il y a des enfants, tu dis, ben fille, écoute, quand tu étais frustrée, jeune, là, écoute, le 8e voisin était au courant, là.
Je suis sûre. Elle avait du caractère.
Elle avait pogné les gènes en double, mettons.
Ah, c'est drôle.
Mais tu sais, je suis sortie un nombre incalculable de fois de centres d'achat ou d'épicerie avec une poche de patates hurlantes parce qu'elle m'avait demandé quelque chose. J'y avais dit non. J'avais eu beau accueillir, me mettre à sa hauteur, accueillir son émotion et lui dire « Ouais, je comprends que tu veux... »
Écoute, on n'avait rien à faire.
T'as pas idée à quel point que quand tu le vis, Audrey, c'est la pire journée de ta vie. Puis 5 ans plus tard, quand tu jases de ça avec eux autres, tu trouves ça drôle.
Oui, ben c'est ça.
Ah mon
Dieu. Mais quand ça arrive, là, je veux dire, tu sais, un enfant qui se fout à terre en plein centre d'achat, il veut plus bouger.
Hey, mon Dieu, je sais pas, c'est la panique.
Puis là. Ils ont comme développé une technique, là, quand tu essaies d'élever, ils se laissent mou.
Ouais.
Ah, oui, ils sont
ouais.
encore,
le spaghetti trop cuit.
Ils sont encore
là.
Plus lourds.
Fait mais tu fais quoi avec ça?
Ben, moi, centre d'achat, le petit centre d'achat qu'il y a, c'est un carrefour là, à Sainte-Marie. Là, j'ai pris Joshua, il devait peser 30 livres. Je l'ai pris par une jambe, puis il y avait la tête en bas. Je l'ai sorti du centre d'achat, je l'ai embarqué dans le char. J'ai attendu que sa mère puisse finir de terminer ce qu'elle avait à faire, parce qu'il n'y avait rien à faire. J'essayais de le calmer, il ne voulait rien savoir.
Je pense que je changerais d'aller. Pas le mien.
j'essayais de le cajoler, de le calmer. Il n'y avait rien à faire. Puis à un moment donné, ben, il s'est sacré à terre puis il faisait l'étoile. Fait que là, j'essayais de le prendre puis il se laissait mou. Je dis, ah ouais, tu veux jouer à ça? Fait que je l'ai pris par la cheville, par à l'envers. Puis je l'ai sorti dehors. Puis à un moment donné, il a commencé à rire.
OK. Ceci n'est pas ma suggestion
d'intervention. Non, c'est ça. Je vais pas lire sur le lien expliqué.
Est-ce que disparaître, ça peut être une bonne idée?
Non.
Parce que ton enfant, va te chercher, va arrêter de paniquer.
Ben, non, parce que là, quelque part, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire à l'enfant...
Je t'abandonne.
Oui, je t'abandonne. Fait qu'on risque de créer beaucoup plus de mal. Tu sais, sur le coup, la crise va arrêter, effectivement.
Il faut que tu assumes les regards de tout le monde.
Oui, il faut que tu assumes les regards de tout le monde. Génial. Généralement, si tu es capable de le ramasser et t'en es dans un petit coin le temps que la crise passe, c'est ça qui va se passer. Mais c'est important aussi de rester calme. Tu disais, je pognerai les nerfs. Écoute, son cerveau est en plein développement. Mm. Ça tilte dans sa petite boîte-là. Et il ne fait pas nécessairement exprès. Et là, ça déborde de partout. Puis là, ben, si moi, je déverse mes émotions alors qu'il n'arrive même pas à gérer ici, je veux dire, ça ne marchera pas. Là, ouais. on va être deux en crise au lieu d'un. C'est pas tant... Fait qu'il faut que je reste calme, j'attends que ça passe. Effectivement, moi, j'ai souvent ramassé la petite poche de patate, je suis sortie avec, en regardant les gens me regarder, en faisant...
c'est le fun, hein?
Ouais, c'est ça. Et après ça, ben, on la met dans l'auto, puis on attend que ça passe. Mais tu sais, c'est important, par contre, que l'enfant ait pas gain de cause. Si, quand il fait une crise, il obtient ce qu'il veut, ben là, après ça, t'es un peu foutu, là, parce que là, il comprend le principe. Mais oui, il faut être dans l'accueil quand même, puis dire, « Hey, boy, grosse crise là. Hey, là, là, t'es fâché beaucoup, hein? » Mais sur le coup, ça marche pas, là, ça le calme pas.
Non, c'est
ça. Faut que la crise passe.
Faut qu'on soit indulgent aussi, j'ai l'impression, les gens autour, là, parce qu'on a tout le réflexe. T'sais, tu vas à l'épicerie, puis il y en a un qui fait une crise de bacon, puis t'as pas d'enfant. Ton premier réflexe, c'est... En tout cas, moi, je me suis déjà surpris à regarder le parent en voulant dire, comme, voyons, tu fais-tu de quoi ou...
Ouais, puis, non, c'est ça, mais il n'y a pas rien.
Mais c'est du gros jugement, là, c'est ça.
Puis très honnêtement, moi, il n'y a pas une fois où je recevais ces regards-là de la part de gens qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient, tu sais, des regards très accusateurs, là. J'avais tout le temps le goût de me griller d'un lance-flamme puis de toutes les faire disparaître.
Mais je comprends.
C'est pas le temps.
Tu le veux-tu, je te le donne.
Non, mais t'essayes de gérer une crise. Ouais. Tu sais très bien que t'es en train de déranger tout le monde. La première affaire que tu veux faire, c'est de le calmer. Puis là, t'as des gens qui passent des commentaires. C'est la pire affaire
à faire. Oui, c'est vrai. L'autre piège, c'est les parents qui, dans ces années-là, justement, quand l'enfant fait des crises, tombent dans ce que j'appelle la suradaptation. Tellement peur à la prochaine crise qu'on se met à marcher sur des œufs et tout faire pour éviter les frustrations aux enfants. Fait que là, si on est obligé de dire non, on enveloppe le non dans du papier de soie, puis on se surjustifie, puis on fait tout pour éviter, tu sais, tout le temps dans le compromis, oui, mais attends un petit peu, mais ça sera pas long, puis... Et où céder justement à la crise ou une menace de crise, parce qu'on ne veut pas avoir à gérer la crise. Puis parfois, les parents ont l'impression que ben mon enfant risque de m'en vouloir. T'sais, il est fâché contre moi, je suis en train de briser le lien, je suis en train de le bousiller. Fait que tu sais, il faut faire bien attention à ça. Si on tombe dans la suradaptation, on tombe... Je vois beaucoup de parents qui tombent dans ce que j'appelle le phénomène de la grenouille. Si je prends une grenouille puis que je la mets dans l'eau froide, OK? Bon, elle est heureuse, puis ça va bien. Si je prends une grenouille, je la mets dans l'eau chaude, ben son premier réflexe, ça va être de sortir de l'eau puis essayer de sauver sa peau. Sauf que si je la mets dans l'eau froide et que je monte progressivement la température de l'eau, la grenouille va s'adapter à la température de l'eau et dépenser beaucoup d'énergie pour s'adapter à la température de l'eau, mais elle va rester là. Mais quand l'eau va être au point d'ébullition, bien, il ne restera plus d'énergie pour sortir de l'eau et ben, elle risque de rester là jusqu'à ce qu'elle
meure. C'est triste quand même.
Et c'est là le risque, où, tu sais, c'est là où j'arrive.
Elle te parle d'une technique. Là.
Je comprends.
Il n'y avait pas de grenouille.
J'ai pas fait bouillir de grenouille récemment. J'ai pas fait bouillir de grenouille.
C'est une technique.
J'entends, je comprends, je suis.
C'est une métaphore.
J'adore.
C'est ça, non, j'ai fait bouillir aucune grenouille. Puis les parents bouillent pas pour vrai, là, aussi. Mais, en même temps, le parent qui tombe dans la suradaptation, qui fait tout pour éviter à son enfant qu'il y ait des crises, éviter les frustrations, bien, à un moment donné, il tombe dans le principe de la grenouille. Il tolère des affaires. Puis à un moment donné, il en vient à un stade où c'est devenu tellement sa normalité qu'il se rend pas compte. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans un restaurant, puis il y avait des gens à côté de moi avec un petit bonhomme d'à peu près 8 ans. Et sa sœur devant lui s'étire pour faire semblant d'y voler une frite. Et le petit hurle, prend sa fourchette, puis essaye de frapper sa sœur.
Et mon
doux! Comme de piquer sa sœur. Et je vois les parents répondre en disant « Ah, Samuel, arrête là. Caroline, non, elle voulait juste faire une blague. Leur donne... Juliette, regarde, fais pas semblant là, pour les frites. » Mais l'intervention reste comme ça. Et là, tu sais, ça fait comme une intervention, ce que j'appelle molle. Donc, tu sais, l'enfant vient d'avoir un geste agressif important et le parent intervient mollement. Mais je me disais, c'est le principe de la grenouille. Probablement que ça arrive tellement souvent, ce genre de situation-là. Puis bon, 5 minutes après, je voyais l'enfant sacrer un coup de pied à un autre enfant. Après ça, se fâcher après sa mère puis tirer après le chandail de sa mère. Là, je me disais, ça doit arriver tellement souvent dans leur famille que sont rendus, les parents, sont comme rendus adaptés.
Ils sont juste tannés.
Sont adaptés. Ouais. Pour eux autres, c'est leur normalité. Fait que, mais en même temps, il n'y a pas d'intervention sérieuse qui se passe. Fait que pour le jeune, ben, puisqu'on intervient sur moi de la même façon que quand je me fouille dans le nez, ben, pour lui, dans sa tête...
L'échelle de gravité n'est pas...
Ben, c'est ça, l'échelle de gravité n'est pas là.
C'est que tu normalises un comportement qui est complètement inadéquat.
Ben, c'est ça.
Puis si tu compares les deux familles, ben là, c'est là que tu vois qu'il y a une famille qui est hyper violente. Puis si tu leur demandes à eux, non, ça a toujours été comme ça. On a toujours... on est toujours intervenu. Là, quand ils prenaient un couteau... Il voulait le rentrer à l'intérieur de sa sœur, bien, on intervenait.
Ben, mais, alors mais que c'est, dans l'autre c'est famille, le phénomène de la grenouille.
C'est 25 ans de prison.
Bien, tu sais, tu comprends que cet enfant-là, tu l'amènes chez moi, il y a un geste comme ça, ou il va à l'école, il y a un geste comme ça, tout le monde sursaute et réagit fort en disant « Hey, qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est une agression, c'est grave! » Et c'est un geste de violence, mais quand ça fait longtemps que c'est comme ça, puis que c'est toléré depuis qu'il est tout petit, puis que, toléré ou qu'il y a de l'intervention, oui, mais à un moment donné aussi, il y a de l'épuisement qui rentre, puis c'est ça. Je veux qu'on fasse attention, je veux pas qu'on tombe dans le jugement, là. Souvent, quand on a un enfant qui est un modèle particulier, qui a des troubles de comportement, puis que il vient à un moment donné où intervenir 42 fois d'une journée, ça amène un épuisement qui fait que les parents en viennent à sous-intervenir sur certains comportements et à sur-intervenir sur d'autres.
Puis je plaide coupable à ça. Je plaide coupable à ça. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Puis des fois, c'était juste à un moment qui était quand même important pour moi puis pour la famille. On allait à quelque part.
Ah.
Puis là, j'avais un de mes enfants qui faisait quelque chose de totalement inacceptable. Fait que s'il m'avait fait ça au matin, il aurait passé un bon moment tout seul à réfléchir. Mais comme on est sur le point de s'en aller, je règle ça boboche un peu pour qu'on puisse aller à notre activité pareille.
Ouais.
Alors puis t'es loin d'être le seul.
Alors qu'il faudrait pas.
C'est non, c'est ça.
Y a-tu des... Y a-t-il des types de parents qui attirent l'opposition? Parce que c'est de ça qu'on parle, là, l'opposition systémique de nos enfants. Tu sais, tantôt,
c'est ça, je disais, l'opposition est normale, mais à un moment donné, quand ça perdure dans le temps et qu'on ne met pas fin à ça, ça peut devenir un problème d'opposition. Un jeune qui se met dans le pétrin régulièrement à l'école, on pense au petit bonhomme, justement, là, qui a essayé de
piquer, donner, sa soeur,
piquer sa soeur, il doit faire ça à l'école, là, il doit transposer ça à l'école, il doit se mettre dans le trouble. Et quand ça perdure dans le temps, puis que ça s'aggrave, on risque de se retrouver avec un jeune qui a un diagnostic de trouble de l'opposition avec provocation. Fait que c'est important d'agir. Et là, je veux juste qu'on s'entende là-dessus. On va se parler des styles parentaux, mais ce n'est pas la seule chose qui influence. Il y a plein de choses qui influencent. L'atelier, je vais en parler à la fin, là, mais j'ai des ateliers présentement gratuits où on parlait, lundi, on parlait d'une quinzaine de facteurs de risque qu'il peut y avoir. Fait que l'environnement vient jouer. Est-ce que l'enfant a un TDAH? Est-ce qu'il y a un autre problème neurologique? Ça vient jouer. Est-ce que, par exemple, pour avoir un syndrome jeu de la Tourette, moi, ce que j'ai vu là, dans le resto, là, je ne sais pas, cet enfant-là, il y a peut-être des diagnostics que je ne connais pas. Il peut avoir vécu des événements traumatiques. Mais chez les parents, il y a les deux extrêmes, je dirais. Il y a la maman de cailloux. Puis là, ça peut être le papa de cailloux aussi, le parent qui n'ose pas intervenir, qui n'ose pas faire preuve de fermeté, qui laisse trop passer d'affaires et qui est trop dans « Ah, Colin, tu sais, Charlotte, là, écoute donc, maman, s'il te plaît, je sais que tu es capable de bien faire ça. » Et le parent aussi qui se donne trop pour ses enfants, qui s'oublie totalement pour ses enfants et qui fait tout le temps passer tout le temps les besoins de ses enfants avant les siens. Donc, il ne cultive pas l'empathie chez l'enfant. Puis cet enfant-là grandit avec l'impression que tout le monde serait supposé de s'adapter à mes désirs. Puis même si je crie, hurle, insulte, c'est pas supposé apporter grand-chose. Dans la même catégorie, j'ai ce que j'appelle le parent Calimero. Calimero, là, ça prend un certain âge pour savoir c'est qui. Calimero, c'est un personnage de bande dessinée de mon enfance.
Je sais pas c'est qui Calimero.
Écoute, là, je me sentais comme un chevreuil sur l'autoroute, j'attendais.
Calimero.
J'aime voir tes points d'interrogation.
Caillou, j'étais là.
Oui, c'est ça. Il va falloir éventuellement que je change mes références. Calimero, c'est un petit bonhomme, un petit poussin qui était tout le temps mal pris, lui. Sa vie était tout le temps triste. Pour moi, le parent Calimero, c'est le parent qui, pour toutes sortes de raisons, se victimise.
Ah. Un petit peu, je pense que c'est le temps de faire un peu de...
L'éducation.
Ah, ça, c'est...
Non,
c'est
pas
lui, je connais. Lui, c'est Bryan Adams.
Ça te dit rien, ça?
Hey, je te mords, c'est vrai de te dire oui, Yann.
Elle est bien trop jeune.
C'est le pire, c'est que j'écoutais Franfreluche, là, dans le sens que mes parents m'ont transmis des affaires, mais Calimero, là.
Mon petit poussin chéri devrait naître aujourd'hui.
Ah ben.
Ma bonne amie, l'heure est-elle venue?
Pas encore, mon ami.
Si tu te demandes pourquoi on est le
genre,
même.
Je vois le genre. Oui, oui, maintenant, je saisis.
Peut-être que tes parents ont jugé que Calimero, c'était pas nécessaire.
Mais j'ai ça à toune. Je sais pas si j'ai à toune. Non, je n'ai pas la toune.
Comment se caractérise le parent qui
Le parent qui a le numéro, c'est le parent qui se victimise par rapport à son enfant, qui n'ose pas prendre le pouvoir. Mais tu sais, admettons, le parent que l'enfant le frappe, puis je l'ai vu en croisière.
C'est-tu genre, tu fais de la peine à maman?
Oui, okay. Ça. Ou tu sais, j'ai vu en croisière un petit bonhomme d'à peu près, c'est ça, 7 ans, 8 ans, il frappait sur sa mère à grands coups de poing. Et maman faisait juste dire, ah, attention, tu me fais mal, j'aime pas ça quand tu fais ça. Fais doux à maman. Voyons, ça marche pas ton enfant.
On dit, il est rendu à 8 ans.
Oui, c'est ça. Ou le parent, tu sais, dans le parent Calimero, des fois, j'ai le parent démissionnaire. Tu sais, le parent que toutes les solutions qu'on lui propose, ah non, mais ça marchera pas. Ah non, mais garde, moi, j'ai tout essayé. Ouais, mais là, moi, garde, là.
Trop découragé.
Oui. Et le parent, tu sais, qui démissionne, c'est comme, hey, moi, là, tu sais, gérer des écrans, là. Hey, moi, la semaine trop trouble à un moment donné. Garde, je choisis mes batailles. Non, tu n'es pas en train de choisir tes batailles, tu es en train d'acheter la paix.
T'abandonnes.
C'est pas pareil, t'abandonnes.
Ouais, mais faut-tu un mélange de tous ces parents-là?
Ben non!
Parce que, tu sais, le parent Calimero, tu sais, oui. Mettons, là, je vais ajouter ça à mes références. Je me dis, quand la première chose qui m'est venue en tête, c'est, bon, à 8-9 ans, ton enfant est intelligent, il comprend, puis il comprend la game, là. Mais, tu sais, mettons, j'en ai vu souvent, moi, des parents de 1, 2 ans qui le faisaient, ça. Tu fais mal à maman. Tu sais, c'est de nommer ses émotions.
Ça, c'est correct de dire, wow, oh, oh, stop, mon cœur, tu fais mal à maman, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais rendu à 7-8. Il te frappe à coups de poing, mais ben là, à un moment donné, tu peux être un peu plus ferme que ça. Tu dis, hey, oh, ça suffit, stop, ça fait mal. Là, tu t'en viens avec moi, on va aller, je sais pas moi, à la chambre, on va se calmer, puis on va aller se calmer le pompon quelque part. Tu sais, fait qu'en vieillissant, on va faire preuve d'un petit peu plus de fermeté, puis on va être un petit peu plus directif. Mais tu sais, mais même à 1 an, 2 ans, si l'enfant me donne des tapes, je vais pas faire, ah, oh, tu fais mal à maman, Caroline, là, c'est pas gentil, ça.
Ouais, ouais, ouais.
J'essaie de pas tomber dans la victimisation.
Le lirage.
Ouais, c'est ça, le lirage, ou tu sais, les propos culpabilisants. Tu donnes mal à la tête à papa, t'as gâché l'activité encore une fois, je fais tout pour toi, regarde comment tu me remercies. Donc, tu sais, tous les trucs qui sont culpabilisants ou c'est ça, on se place en position de victime. Puis là, écoutez, les parents, je sais que tout le monde l'a déjà fait, là, le problème est quand on le fait de façon récurrente.
Ça, c'est que ça.
Ça m'est déjà arrivé, là, moi aussi, de culpabiliser ma fille. Là. T'sais, ça m'est déjà arrivé là, d'être fatiguée puis de démissionner sur quelque chose. Là. T'sais, c'est pas un lien de cause à effet. Là. Ouais, vous n'êtes pas accepter. En train de bousiller vos enfants.
Il faut accepter d'être imparfait aussi.
Oui, oui, tout à fait. Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Le problème est quand ça devient un mode éducatif et que c'est récurrent et que c'est tout le temps comme ça qu'on intervient. À l'autre extrême, ben j'ai le parent général. Le parent général, ben lui, il faut que ça marche à sa façon. Et, tu sais, bon, c'est des parents qui sont perfectionnistes. Il faut que les chaussures soient mises comme il faut dans l'entrée, sinon le parent va se fâcher. Beaucoup, beaucoup dans les menaces puis dans les punitions. Puis là, tu fais tes devoirs puis tu t'assois comme il faut, parce que toi de l'eau droit. Puis là, tu prends ton crayon puis là, tu arrêtes de niaiser parce que sinon, tu vas avoir une conséquence. Puis là, c'est beaucoup, tu m'écoutes puis ça marche comme moi, je veux. Ou encore, le parent, dans le même ordre là, d'idées, mais lui, je l'appelle le policier bien intentionné, ou le parent, il y en a qui l'appellent le parent hélicoptère, le parent qui est toujours derrière son enfant pour lui dire quoi faire, quand le faire, comment le faire. T'sais, dis bonjour à la madame, là, mais regarde-la quand tu lui dis bonjour. Là. OK, non, là, parle plus fort. Tiens-toi le dos droit, là. OK, bon, bien, viens-t'en ici, assieds-toi comme il faut. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Je t'ai demandé de t'asseoir comme il faut, là. Bon, là, tu m'écoutes pas. Là, moi, si ça continue comme ça, on va se coucher de bonne heure à soir, c'est bien de valeur, là. Parce que là, moi, ma main est pas contente.
Ça me brûle.
Ben oui, c'est ça. Et bon, t'es-tu prêt, là? Mange encore deux bouchées. Non, pas des bouchées de souris, là, des bouchées d'éléphant, là. Mange encore deux bouchées. Dépêche-toi parce qu'il faut aller prendre l'autobus, là. En vrai, OK, descend. Ah, oh, là, t'as sali ton chandail. Là, ma main est pas contente. Regarde-moi.
Oh, c'est quand mon même... Dieu Seigneur!
Hey, moi, j'ai des collègues de travail comme ça.
Mais ça me fait rire parce que je t'écoute puis je me dis, il y a sûrement tellement de gens qui se reconnaissent. Puis on dirait que je suis capable de lire un peu quel type de parent, en tout cas, quel comportement je vais avoir tendance à adopter.
Mais ça aussi, on le fait tout. Je me vois encore, moi, aller chercher ma fille à l'école. Puis là, tu sais, puis je suis dans ma tête, là, tu sais. Puis des fois, j'étais centrée sur la tâche. Puis là, elle veut me montrer son dessin. Je dis, oui, il est beau ton dessin. Là, mais là, ramasse-le, mets-le dans ton sac parce qu'il faut qu'on s'en aille. Mets tes bottes, mets ton manteau, zippe ton manteau. Là, mets-le, c'est passé où? Parce que là, il fait froid dehors. Mets ta tuque. Non, non. non, on met la tuque, ma grande, parce que c'est important. Embarque dans l'auto, assieds-toi comme il faut, mets ta ceinture. Et là, je lui dis tout quoi faire. On arrive à la maison, on débarque de l'auto. Je dis, débarque de l'auto, ferme la porte doucement. T'as-tu ramassé toutes tes choses sur le siège arrière? Ma fille, elle a à peu près 9 ans. Et là, je suis derrière elle, puis là, je dis, bon, avance, avance.
Tu fais la narration là, oui. de ce qu'elle fait, là.
Et on arrive sur le bord de la porte, elle met la main sur la poignée, puis je lui dis, rouvre la porte. Et là, elle arrête sec, puis elle se retourne, puis elle me regarde, puis elle me dit, maman, ça, je pense que j'y aurais pensé toute seule. Je fais, oh,
oh mon Dieu, prise de conscience.
Je suis gossante, elle dit oui.
Oh. Mais il n'y a tellement pas une journée pareille. Là. Je veux dire, ça doit être dur de.
Ouais, puis des fois, tu te rends compte que, parce que quand t'en as deux, puis ils n'ont pas le même âge, tu fais la même affaire pour le plus jeune que tu fais avec le plus vieux. Moi, je me suis rendu compte que mon plus vieux n'était pas tant autonome pour son âge. Puis là, j'ai commencé à m'observer. C'est toi, je parlais de ça. Ouais. J'ai commencé à m'observer. Puis là, je me suis dit, mais attends un peu, là. Moi puis sa mère, on fait tout pour lui parce qu'on le fait anyway pour son petit frère.
Ouais. Ben oui.
Fait que là, j'ai commencé depuis un an, j'ai commencé à y faire faire ses propres déjeuners. Puis ça le fatigue à chaque fois parce que là, il est obligé de faire le déjeuner pour son frère aussi. Uh-huh. Puis moi, je l'assiste, tu sais, du début jusqu'à la fin, mais n'en demeure pas moins que c'était moi le problème. Je voyais que mon gars, il avait pas de l'air autonome, crème. Il avait 12, 11, ben, il va avoir 12 ans. Il va avoir 12 ans, il n'est pas encore capable de faire son déjeuner, pas encore capable de choisir ses vêtements. Ben là, c'est parce que sa mère, il sortait tout le temps ses vêtements
son
le matin.
Son petit kit.
Ben oui. Elle sortait les kits
pour
que tout soit agencé.
Ben oui. Fait que là, plus vite.
En tant que parent, il a fallu se parler. Puis comme nous, on n'est plus ensemble, il a fallu se coordonner aussi.
Ben
parce
oui.
que ce qui se passe chez sa mère, faut que ça suive chez nous aussi. Uh-huh. Là. C'est les mêmes règles.
Ben oui, c'est ça. Puis ça, je te dirais que c'est un autre type de parent. C'est un peu le parent papier-bulle où on a tendance... Puis tu sais, je pense que c'est France Gauthier qui disait « La parentalité, c'est la seule sphère de notre vie où, au fur et à mesure où on gagne en compétences, faut en faire de moins en moins. » Fait que là, des fois, comme parents, on est un peu sur le pilote automatique, on s'en rend pas compte. Puis là, ben c'est ça, on coupe au plus court. Un jeune est rendu à 11-12 ans, on se lève le matin, c'est nous autres qui le réveille une fois, deux fois, trois fois. On lui dit quoi se mettre sur le dos, on lui dit de descendre, on lui prépare ses toasts, on s'assure qu'il manque rien dans le sac d'école.
On dirait que c'est naturel.
Ben oui, c'est
parce
naturel.
Que tu veux sauver du temps, la routine, tu sais, t'as tout
tu
le temps à job, là.
Puis tu veux être un bon parent, puis oui. tu veux que ton enfant, il manque de rien à l'école, puis là, on s'assure qu'il a fait signer toutes ses papiers. Puis on s'assure qu'il a bien fait ses devoirs, puis s'il a fait des erreurs dans ses devoirs, on est effacé, puis on lui a dit ça, tu le refais. Et on s'assure, tu sais, qu'il manque jamais de rien. Puis là, on regarde dehors, c'est nous autres qui vérifie la température,
ouais.
qui dit « Ouais, il fait froid le matin, mais si, mais ça, porte ci, porte ça, parce que là, j'ai peur que t'ailles froid. » Fait que l'enfant n'a pas de besoin de réfléchir. Là.
Exact.
Il traverse la vie avec la switch à off, puis si jamais il se met les pieds dans les plats, c'est parce que
« Mais là, tu me l'as pas dit. »
Ah! Le parent avocat, c'est quoi ça?
Le parent avocat, ça, c'est le parent qui argumente, qui veut absolument convaincre...
Ah mon Dieu, mon chum va être de même. Ah, Seigneur!
Qui veut absolument convaincre l'enfant du bien fondé de son interdit ou de sa règle. Donc, il va parler, 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 expliquer, réexpliquer d'un autre angle, etc., pour essayer que l'enfant se rende à ses arguments. Fait que, tu sais, je voyais même... Écoute, des fois, ça commence de bonne heure, là. J'ai vu une maman, petit bonhomme d'à peu près 2 ans, on était en camping, s'en va avec une espèce de petite fausse tondeuse, puis là, elle veut qu'il revienne à la roulotte. Puis là, le petit, il veut pas, lui, il veut tondre jusque chez le 8e voisin. Et là, elle essaye de le convaincre, à grands coups d'arguments et de promesses de récompense, de revenir vers la roulotte. Mais le petit, il écoute pas. Elle suit. Mais tu sais, je me disais, à un moment donné... Prends-le, puis ramène-le. Je veux dire, mais là, dès qu'elle essayait de le prendre un peu, il se mettait à hurler, à le lâcher. Puis là, elle essayait de le convaincre encore. Mais là, après ça, ça continue. Là. C'est comme, bon, mais Justin, il va prendre ta douche. Ouais, mais là, je l'ai pris hier. Oui, mais tu sais, il faut que tu apprennes à tous les jours. Ouais, mais là, j'ai même pas eu chaud aujourd'hui. Mais là, c'est pas vrai, tu as eu un cours d'éducation physique à matin. Ouais, mais regarde, ça, c'est une question d'hygiène, mon grand. Parce que là, il faut que tu comprennes que. Puis là, le jeune, à un moment donné, tu sais, écoute.
Il écoute pas, là.
Mais ben non, il écoute pas, là. T'sais, c'est comme quand tu restes sur le bord d'une traque de chemin de fer, à un moment donné, tu l'entends plus. Fait que là, le parent, il dit, hey, il s'oppose, il m'écoute pas, il fait de l'opposition passive. Non, c'est parce que t'as tellement parlé qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, il sauve sa santé mentale, là, tu sais,
oui.
c'est comme...
Je reconnais ma mère, je pense.
Mais tu peux couper l'Internet aussi tant son temps qu'il n'a pas pris sa douche.
Ça ouais, il y a d'autres moyens, hein?
Ça peut être ça aussi, ou tu sais, c'est de comme, tu sais, des fois, je donne la technique du disque rayé, là, c'est comme, c'est parce que la douche est non négociable. Ouais, mais... Non, regarde, c'est non négociable. Go! Ouais, mais.
Non, c'est ça, c'est non négociable. Mais... Hé, mon Dieu, c'est bon, ça! Hé, mon Dieu, j'aurais pas aimé ça comme enfant, moi, là.
Non, hein?
Hi!
C'est ça.
On sait bien, l'opposition.
Ah, franchement.
Fait que là, t'as des parents, t'as des familles, là, où la moindre consigne part dans des joutes argumentatives, là, mais qui en finissent plus.
Parce que tu veux y dire pourquoi. Tu sais, t'essaies d'expliquer tes gestes à ton enfant, puis à un moment donné, tu te rends compte qu'il veut juste pas comprendre, puis t'es obligé de lui imposer sa fameuse douche, là, tu sais. C'est assez particulier. Des fois,
mais c'est correct d'expliquer. C'est juste que comme parents, des fois, on confond expliquer et se justifier. Tu sais, une bonne explication, exact. Là, c'est 10-15 mots. Là, pourquoi vas-tu te laver? Mais parce qu'il faut que tu te laves tous les jours, mon loup.
Puis,
ça, c'est comme...
mettons, Nancy, est où la ligne entre affirmation et opposition? Comme enfant. Parce que, tu sais, on parle de troubles de l'opposition, puis je veux dire, on a tout, on dirait le terrible two avec le non en tête, là, mais
Audrey, tu vas avoir 30 ans, là.
Quand... Franchement, Yannick Marceau, t'aimes ça me dépeindre, hein? T'es pas en table. C'est toi qui crée mon trouble de l'opposition. C'est depuis que je me tiens avec toi que j'ai des problèmes. Concrètement, le trouble de l'opposition, là, j'écoute te dire c'est quoi, mais c'est que je me dis, est où la ligne de ton enfant s'affirme versus il s'oppose?
L'affirmation puis l'opposition, c'est normal. OK? Donc, un jeune qui refuse de collaborer sur certaines affaires, qui s'obstine sur certaines règles, qui contourne les règles de temps en temps. En fait, ça commence à être problématique quand ça nuit au fonctionnement social de l'enfant. Quand, à cause de son opposition, il a du mal à se faire des amis du même âge que lui. Et qui est tout le temps en train d'essayer de tout contrôler et que ça crée des grosses chicanes. Quand, à l'école, il se met régulièrement les pieds dans les plats, qu'un enfant fasse des bêtises une fois de temps en temps, ça fait partie du développement normal, qu'il y ait des sanctions de temps en temps, ça arrive. Mais quand rendu à toutes les semaines, toutes les deux semaines, les parents reçoivent des communications de l'école parce que le jeune a refusé, par exemple, de faire un travail scolaire, il était dérangeant, l'enseignante lui a demandé de sortir de la classe, le jeune a refusé de sortir de la classe, puis là, ben finalement, le prof a dû faire sortir toute la classe, puis le jeune a fait une crise virée tout à l'envers. Quand, après l'entrée scolaire, les crises importantes, là, avec des cris, des insultes, des pleurs qui sont longs, des agressions, de la destruction de matériel, des fugues, quand ça arrive régulièrement. Tu sais, si votre jeune, c'est arrivé une fois dans la dernière année ou dans les deux dernières années, qu'il y a eu une grosse crise comme ça puis qu'il avait 7 ans, ça peut arriver, il peut avoir vécu une perturbation, mais quand ces crises-là arrivent de façon régulière, il est temps d'agir, là, parce que si on n'agit pas, ça ne va pas s'améliorer. Les troubles d'opposition, quand on parle aussi de troubles d'opposition, généralement, on parle de troubles d'opposition avec provocation. L'enfant fait volontairement et consciemment exactement l'inverse de ce qu'on lui demande. On lui dit « Assieds-toi », il se lève debout en faisant « Ah, ah! » Mais ça, il ne fait pas juste ça une fois de temps en temps pour rigoler, là. Il fait ça tout le temps. Si on lui dit à table « Ferme ta bouche », on peut être sûr qu'il va ouvrir sa bouche, oh, oui. Il va faire exprès de saper tout le long avec un sourire en coin. Mais ça arrive tout le temps, là. C'est pas juste une fois de temps en temps. La provocation, c'est si j'ai dit à l'enfant « tu ne touches pas à mon sac à main », ben je peux être sûre et certaine qu'il va aller y toucher dans la prochaine demi-heure puis qu'il va me faire « J'y ai touché à ton sac à main, qu'est-ce que tu vas faire? »
Ah, là, qu'est-ce que tu vas faire?
Ouais.
Oui, tu vas l'avoir, toi aussi, là.
Ouais, c'est ça.
Mais qu'est-ce que tu fais quand on me dit « qu'est-ce que tu vas faire? » Parce que moi, tu comprends, je l'accrocherai dehors, là.
Moi, je te dis « tu veux pas voir ce que je vais faire. » Fait que, s'il vous plaît, fais ce que je viens te demander.
Bien, ça, si le jeune, tu sais, je veux dire, quand tu es capable de faire ça, puis que ton jeune fait « ouais, OK, d'accord, je vais le faire », il n'est pas en trouble d'opposition, là. C'est un jeune qui s'essaye, qui teste sa limite.
Ouais.
Mais quand il te pousse comme ça constamment et qui est tout le temps en train de te défier, mais tu sais, là, c'est partout, tout le temps, avec tout le monde ou pratiquement, là. Le trouble d'opposition, c'est pas juste « je te niaise une fois de temps en temps », là. Mais tu sais, d'emblée, ce que j'ai envie de dire aux parents, tu sais, c'est quand votre jeune s'oppose souvent, défie souvent l'autorité, se retrouve souvent dans le pétrin, quand ça commence à nuire à son cheminement scolaire, bien, il est peut-être temps d'agir avant qu'on se rende aux troubles de l'opposition avec provocation. Parce que quand on est rendu là, c'est plus compliqué.
Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es rendu là? Ben là, toi, ton jeune, il a 16 ans, puis constamment, il te dit « Ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me mettre dehors? Qu'est-ce que tu vas... » Tu sais, qu'il te pousse, parce que maintenant, t'es à bout de ressources, là.
Ben, tu sais, nous autres, on intervient avec des parents qui ont des bleus, parce que leur enfant de 13, 14, 15, 16 ans les frappe. Tu as des parents qui ont constamment peur de leurs enfants et de leurs adolescents. Fait que c'est pour ça que je veux dire, ben, il faut agir. Là. Mm. Je veux dire, c'est pas banal. Oui, tous les enfants s'opposent. C'est vrai, ça fait partie du développement. Mais à un moment donné, quand on voit que ça dérape, il faut intervenir. Faut arrêter de tu sais, faut pas rester dans le syndrome de la grenouille dans l'eau chaude et attendre que ça bouille parce que ça va bouillir tout à l'heure. Là. Et c'est là où moi, je trouvais qu'il y avait un trou de service. Moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans les centres jeunesse avec les adolescents en troubles graves de comportement. Puis après ça, j'ai travaillé aussi en CLSC, puis bon, en coaching familial. Puis, tu sais, on avait comme de l'intervention pour l'opposition normale et simple. Puis, bien, après ça, quand on arrivait aux troubles d'opposition, bien là, c'était des centres jeunesse. Bien, tu sais, j'ai développé à ce moment-là un programme qui s'appelle SOS Opposition pour ces parents-là, pour dire, regarde, on vire la chose. Puis c'est quelque chose de très intensif.
J'adore ça. SOS Nancy, coach familial, tu as ton entreprise depuis des années, ça fonctionne super bien. Là, tu lances ton nouveau programme qui s'appelle SOS Opposition. Il y a 6 étapes dans ce programme-là. Ça prend à peu près combien de temps faire le programme au grand complet?
Le programme s'étale sur 16 semaines, mais ouais. Tout le contenu qui représente quand même, avec les exercices et tout, là, ça représente quand même une centaine d'heures.
Wow.
Fait que, tu sais, nous, on l'anime pendant 16 semaines avec un groupe qui est là sur 16 semaines, puis avec les pompons, puis on aide les gens, puis on est en interaction avec eux, puis on répond à leurs questions pendant 16 semaines, mais les gens ont accès à tout le contenu à vie par la suite. Donc, ils peuvent s'y référer là, constamment, quand même évoluer là, à leur propre rythme. Mais tu sais, si les gens, bon, les gens peuvent aller voir sur ma page Facebook, SOS Nancy Coaching Familial. On fait la promotion de ce programme-là, mais présentement, parce qu'on est en promotion, on a une espèce de formule dégustation. Là. On offre 3 ateliers gratuits de 2 heures chacun. Fait qu'on offre quand même gratuitement 6 heures de contenu sur l'opposition, les troubles de comportement. Puis on parle aussi des enfants explosifs qui font des crises, les enfants qui ont des problèmes d'agressivité. Donc, 6 heures. Donc, les gens peuvent aller s'inscrire. C'est totalement gratuit. C'est sûr qu'à travers, on vous parle du programme SOS Opposition. On vous donne tous les détails concernant ce programme-là. Mais tu vois, l'atelier 1, qui est présentement disponible, si vous inscrivez, vous allez pouvoir aller voir l'atelier 1. On vient tout voir puis décortiquer c'est quoi les causes, les trucs qui peuvent alimenter l'opposition, les types parentaux, mais aussi, bon, tu sais, dans l'environnement, dans les événements, les traumas, etc., là, qui peuvent alimenter l'opposition, comprendre comment ça se passe chez les jeunes d'opposition. Ce soir, on a déjà aussi un autre atelier à 7h, à 19h ce soir, où là, on fait des coachings live. On a demandé aux gens de nous envoyer leurs questions, leurs situations. Mm-hmm. Et ma collègue et moi...
Sur les réseaux sociaux, vous allez être en direct?
Sur Zoom. Les gens doivent absolument s'inscrire pour venir sur Zoom nous rejoindre. Puis on fait vraiment des coachings live à partir des situations qu'on a. Puis le dernier atelier, là, on va explorer quand même plusieurs pistes d'intervention. Aller un petit peu plus loin, justement, aussi sur les styles parentaux. Puis on va venir répondre aussi là, aux questions des gens là, en détail. Avec tout le contenu du programme SOS Opposition là, pour que les gens sachent à quoi s'attendre.
Madame SOS, c'est toujours un plaisir. SOSNancy.com pour plus de détails.
Yes, ça fait toujours plaisir de venir vous voir.
Nancy Doyon, c'est toujours un plaisir. On se reparlera dans quelques semaines.
Ben oui, on remet ça bientôt.
T'en as-tu appris un peu?
Ben, moi, j'en apprends toujours.
Est-ce que tu sais maintenant le trouble que tu nous poses?
Il m'énerve. Sur le piton.
OK.
Boulevard 102.1. Tous les vendredis. L'Open Mic avec Marceau et Audrey Pinchot.
All right. Nous autres, il nous reste pas grand temps, Audrey, juste avant de partir. On a-tu des billets pour Linkin Park? Encore?
On gâte notre monde.
On gâte notre
monde. On prend-tu genre le troisième appel, 418-780-1021?
Non, pose une question par texto. J'aime bien ça. 418-971-1021, puis il faut que la personne ait écouté l'émission, bien entendu.
Je m'excuse, les auditeurs, c'est son trouble de l'opposition. T'sais, le téléphone sonne déjà.
Linkin Park, avec sa tournée From Zero 2025, qui va être au Centre Bell le 5 août prochain. Cette semaine, grâce à Boulevard, ben, tu pourrais remporter ta paire de billets et c'est le cas maintenant. Sinon, si t'es pas assez chanceux, ben, tu t'en vas sur le evenco.ca. Les billets sont en vente, donc une paire de billets pour le 5 août à l'instant.
J'ai la question.
Par texto 418-971-1021, 418-971-1021. Audrey.
Linkin Park a sorti son album From Zero il y a déjà plusieurs mois. Ils ont sorti 2 autres versions de cet album-là. C'est quoi ces versions-là?
Oh, tabarouette, c'est une bonne question, ça.
Ben, si vous avez suivi Linkin Park et que vous aimez Linkin Park le moindrement, c'est une question assez facile à répondre.
Mais tu vois, je t'ai demandé, faut que tu poses une question par rapport au show pour qu'il ait écouté le show.
C'est ça que tu voulais?
Puis là, l'opposition systématique a fait que t'es allé de l'autre côté. Et voilà, c'est
et
ça.
Et c'est compliqué à suivre, ça, là. Ouais.
418-971-1021, 418-971-1021, bonne chance. Je te souhaite de passer une belle journée. On t'écoute à 14h.
Je t'en souhaite une bonne aussi.
Salut!
Salut!
À la prochaine!